Parlons Tertiaire, au cœur des acteurs du territoire, une émission en partenariat avec Bazimo. Présentée par Chloé Ressac, cofondatrice de Bazimo, et Johanna Silberstein, sur Radio Imo.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Comme vous le constatez, Johanna Silberstein s'est transformée en Sylvain Lévy-Valency. Voilà, c'est l'avantage du dispositif. Johanna, qui ne peut être présente sur cette émission, donc je me fais un plaisir de la remplacer avec notre amie Chloé Ressac, la cofondatrice de Bazimo. Comment ça va, Chloé ?
Super, merci Sylvain.
Alors, c'est notre troisième émission, hein, troisième podcast qu'on appelle Natif, hein, à disposition de tous ceux qui apprécient l'immobilier. Chloé, on a une tradition, on commence toujours, avant de présenter nos invités, qui nous ont fait l'honneur d'être sur le plateau. On commence toujours par l'édito de Chloé Ressac.
Parlons tertiaire, l'édito.
Bonjour à tous. Donc, lors du dernier podcast, nous avions abordé le sujet de l'avenir du property management en confrontant le schéma classique des PM aux nouvelles méthodes de gestion de coworking. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très présent dans l'actualité ces derniers temps, le fameux label ISR, en évoquant plus en détail la gestion courante de ce label et la remontée des données nécessaires au quotidien. Pour rappel, l'idée de cette série de podcasts, c'est de se plonger au cœur des métiers de la gestion de patrimoine immobilier, comprendre les sujets du quotidien et mettre les mains dans le cambouis en osant parler librement de tous les sujets, même de ceux qui fâchent. C'est justement, comme vous le savez sûrement, depuis quelques temps maintenant, les questions d'environnement, d'approche sociale et de gouvernance prennent de plus en plus de place dans l'immobilier. Et c'est justement dans ce contexte qu'est né le fameux label ISR pour investissement socialement responsable. D'abord, il a été mis en place pour des fonds classiques et ensuite mis en place pour l'immobilier. Mais notre invité du jour, Thomas Rochefort, nous en dira un peu plus juste après. Des études commencent à sortir sur les premiers retours du label, mais nous voulions nous concentrer plus dans ce podcast sur sa mise en place opérationnelle au sein des sociétés, et notamment la remontée d'informations qui est loin d'être aussi évidente que ce que l'on pensait. Après quelques mois de mise en place, nous allons nous demander comment ce modèle va se pérenniser et quelles en seront les futures problématiques. Et c'est justement pour répondre à cela que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous Thomas Rochefort, donc l'associé fondateur d'Étiquette et qui a participé à l'élaboration du label côté immobilier, ainsi que Estelle Ginefri, du coup responsable RSE et innovation chez Foncière Magellan.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Chloé.
Comment ça va ?
Bah, très bien.
Ça va, ce retour d'activité est bon chez Magellan ?
On est à fond.
Ça reprend grosse résilience dans les actifs immobiliers.
Oui, on n'a pas à se plaindre.
C'est presque miraculeux quand on y réfléchit.
Oh, il y a du boulot derrière, donc ouais, je ne suis pas sûre que ça relève du miracle, mais en tout cas, on est content du résultat. Oui.
Thomas Rochefort, vous êtes associé fondateur d'Étiquette.
C'est ça.
Donc, vous avez un job, j'allais dire, qu'on ne peut pas trouver mieux en ce moment.
Alors, c'est vrai,
vous accompagnez, aujourd'hui on parle de vertu, le capitalisme se trouve des vertus extraordinaires, ce qui est quand même une drôle d'ironie du sort quand on y réfléchit, mais tant mieux, et tant mieux pour la planète, parce qu'on peut quand même, au-delà de tout ça on peut sourire, mais au-delà de tout ça on n'a qu'une seule et même planète, et l'idée c'est de la préserver, parce que tous ces règlements qui sont mis en place au niveau mondial n'ont un seul et unique but. C'est d'arriver, on va l'espérer, bien évidemment, même si le rapport du GIEC nous dit le contraire, qu'on va espérer à atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050. Thomas.
Alors
rapide.
Je risque d'être bavard, mais tout d'abord, la planète s'en sortira très bien. Hein. C'est bien la vie sur cette planète qui est menacée et l'enjeu, c'est de réussir à préserver ça. Et c'est là où le GIEC, effectivement, appuie lors de son dernier rapport paru cet été, sur le fait que les conditions de vie risquent de devenir très difficiles pour l'être humain. On parle quand même de la survie de l'espèce. C'est un enjeu qu'on peut peut-être considérer de majeur.
Et on peut même dire, je vais faire mon écologiste quand même, que le 8 mai 2020, vous le savez, il s'est passé quelque chose d'incroyable sur la planète. À deux endroits du monde, au sud du Pakistan et au sud de l'Arabie Saoudite. À deux endroits de la planète, pendant plus de 2 heures, la Terre s'est montrée hostile à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 3 heures, le corps humain ne pouvait survivre dans cet état. En fait, il faut savoir que quand vous avez un excès de chaleur, par exemple, le corps est conçu pour expulser la chaleur à travers la transpiration. Donc il y a un rapport entre la chaleur et l'humidité. Or, le rapport entre la chaleur et l'humidité qui règne dans ces deux endroits à la fois ne permet pas d'expulser la transpiration pour un être humain normalement constitué. Donc en moins de 2 heures, les organes vitaux cessent de fonctionner en commençant par les reins, qui provoquent en fait des afflux sanguins et qui entraînent irrémédiablement un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque survenant, il y a une dégénérescence fulgurante de tous les organes vitaux de l'être humain qui se décompose à la vitesse de la lumière. Donc en fait, c'est un phénomène qui a été environ 2h30 de mémoire. Ça a été une revue scientiste qui a été publiée le 8 mai 2020. Et de mémoire, avec les indicateurs, depuis qu'on connaît un peu, qu'on mesure un peu la science, ce n'est jamais arrivé.
C'est dans ces conditions et dans des zones qui étaient effectivement habitables.
Alors, dans des zones habitables, dans des zones urbanisées, ça il faut le dire aussi important, et la seule analogie qu'on a pu faire, c'est l'écart de température entre ce qui a précédé la période glaciaire, qui a entraîné en fait une extinction de 90% des espèces vivant sur Terre. Et cet écart de température, tenez-vous bien, il est de 1,5 degré. C'est fou hein, quand on y réfléchit. C'est-à-dire que l'écart de température entre la période de glaciation qui a été vécue dans l'histoire de l'humanité, elle est de 1,5 degré. Thomas, vous avez lu le rapport du GIEC comme moi. Moi, il m'a fait flipper. Quand je l'ai lu, j'avais 2 choix, c'était le suicide ou d'aller à la pêche. J'ai été pêché.
Passer à l'action.
Ou passer à l'action. Mais maintenant, voilà. Alors maintenant effectivement, on va voir, et c'est l'objet de cette émission, d'examiner effectivement comment ces impacts-là, Chloé, ont une incidence sur l'immobilier, qui, il faut quand même le rappeler, même si c'est par nature une évidence aussi, le deuxième émetteur de carbone au monde.
Tout à fait. Et du coup, pour commencer, on va poser une petite question à Thomas, pour qu'il nous fasse un petit rappel, notamment du contexte et des grandes lignes de ce label, en quelques phrases, du coup.
Et surtout nous dire pourquoi ce label est né, parce qu'il y a une raison. Tout à fait. Pourquoi le label est né, à quoi il va servir, rapidement.
Alors, du coup, c'est 2 questions un tout petit peu différentes. Donc, je vais peut-être parler du contexte d'abord et expliquer comment ça s'articule ensuite. Le label ISR, il est arrivé en France en 2015 et il concernait au départ des valeurs mobilières. Donc, il est parti d'une incitation de l'État pour essayer, je vais résumer un petit peu, mais d'éviter du greenwashing. Le label ISR, c'est un label d'État. C'est donc un décret ministériel qui dit voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut faire dans la gestion d'actifs pour avoir le droit de se prévaloir du terme ISR en France. Les valeurs immobilières, donc les fonds immobiliers, étaient exclus de cette démarche pour des raisons techniques. Et du coup, il y a eu un groupe de travail de professionnels de l'immobilier, par ailleurs convaincus, et c'est là où on revient sur l'histoire, c'est assez intéressant. En 2016, l'ISR ne faisait pas la une des journaux. L'ESG n'était pas vraiment au cœur des préoccupations. Et du coup, ce petit groupe de professionnels de l'immobilier était un groupe de personnes convaincues qui avaient plutôt le loisir de travailler dans leur chambre sans être trop embêtées. Donc, on a travaillé et on a fait une vraie démarche bottom-up pour dire l'immobilier, ce sont des actifs réels, ce sont des impacts réels. Donc, l'enjeu n'est pas de sélectionner les bons actifs. L'enjeu, c'est de faire en sorte que sur un patrimoine donné, en tant que professionnel de l'immobilier, nous ayons une action sur les impacts environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 2 ans pour faire une ébauche de label que nous sommes allés présenter au gouvernement, à la direction du Trésor, qui est le titulaire du label ISR, en passant par l'AMF, qui est quand même l'autorité de référence pour tous les fonds d'investissement. Et il y a eu encore plus d'1 an de discussion pour affiner les exigences, pour rédiger tout ça, et que ça convienne donc au ministère en charge de cette question, et que le décret sorte le 23 juillet 2020. Et c'était la naissance de l'ISR et du volet immobilier de cet ISR. Donc ça, c'est un peu le contexte et l'historique. Alors maintenant, comment on met en œuvre cet ISR? Donc les 2 ans ou 3 ans de travail sont arrivés à une conclusion. L'enjeu est de travailler sur le patrimoine existant, c'est-à-dire la responsabilité des professionnels de l'immobilier par rapport à ces enjeux, entre autres de dérèglement climatique, mais on pourrait aussi longuement parler de la crise de la biodiversité. L'enjeu des professionnels de l'immobilier face à ces crises, c'est de travailler sur le patrimoine immobilier existant et de le rendre plus vertueux. Je vais dire vertueux puisque c'est un terme suffisamment large. Et pour ce faire, il y a besoin d'investissement. Il y a besoin d'argent, il y a bien d'un système de gestion et d'un système d'investissement. Donc, tout le process du label, il pourrait tenir en une seule phrase. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Le label vient donner le cadre qui permet à une société de gestion de se prévaloir de cette démarche ISR en vérifiant que les indicateurs de mesure, que les engagements, que les process de gestion sont tous alignés vers les objectifs affichés pour les investisseurs.
Alors, un actif immobilier par nature est hétérogène, on est d'accord ? Donc il n'est comparable à aucun autre, dans la structure territoriale, dans sa structure métropolitaine, etc. Donc, d'un point de vue macroéconomique, on ne peut pas généraliser, effectivement, et c'est l'inconvénient du label ISR, mais d'un point de vue macroéconomique, à quelque chose qui, par nature, est hétérogène. Cependant, il y a des process qui, eux, sont, ont un impact qu'on peut rendre matriciel et donc développer. D'ailleurs, c'est ce que fait Basimo. Dans son processus, c'est-à-dire qu'en fait, on simplifie le flux d'informations. Je voudrais, moi, adresser à Abou, on va revenir sur la question. Ça représente des enjeux importants pour des personnes qui gèrent aujourd'hui des actifs. Vous êtes à la tête de la RSE chez Magellan. Alors, on avait noté une question pour vous qui est importante, parce que je pense que d'un point de vue technique, c'est important de voir comment vous travaillez là-dessus. C'était une question qu'on a rédigée avec Chloé. Quels sont les enjeux que vous avez chez vous pour fluidifier justement la gestion de toutes ces informations qui arrivent en grande partie aussi de la gestion technique ? Parce que pour une foncière, c'est pas simple non plus de mettre tout ça en relief.
Pour une foncière, en fait, il y a les deux volets, à la fois la définition du cadre qu'a rappelé Thomas, donc de mettre et d'écrire noir sur blanc et d'en parler avec nos investisseurs, de quels sont les objectifs ISR par fonds, et notamment là sur la foncière des praticiens, qui est notre premier fonds, qui a été labellisé au mois de juin.
Foncière des praticiens, vous nous en dites plus ?
Oui,
qu'on dit praticien de la santé.
Tout à fait. Voilà. C'est une foncière qui est dédiée à l'immobilier de santé, donc où on va retrouver des actifs de maisons médicales, hôpital psychiatrique de jour, centre pour l'autisme.
Donc vous collectez de l'épargne publique.
Et privée.
Oui, enfin, quand je dis l'épargne publique, au sens où vous collectez de l'épargne.
Oui.
Pour, dans le but, effectivement, d'investir sur ce type de support immobilier.
On est d'accord. D'accord. C'est ça, comme n'importe quel autre fonds. Mmh. C'est juste que là, en fait, on va spécifier sur les trois piliers que sont l'environnement, le social et la gouvernance, quels sont vraiment les objectifs, la stratégie ISR de ce fonds-là.
Donc du coup, sur la santé, j'allais dire ISR, santé...
Social,
ça...
Alors, ça, on peut
ça fait
se
écho.
Dire... Effectivement, ça fait écho, ça c'est sûr. Il y avait déjà en plus, historiquement, un fonds de partage à destination de trois associations qui avaient été créées. Voilà. Mais sachant que le label ISR est complémentaire à cette démarche initiale, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une thématique santé pour obtenir le label ISR.
Oui, bien sûr.
On a, comme le rappelait Thomas, autant d'exigences sur l'environnement et la gouvernance que le social, même sur un fonds dédié
même,
santé.
Même une SCPI à fonds de partage n'est pas obligatoirement qualifiée pour avoir le label ISR.
Pas du tout, parce qu'en fait, le label est vraiment sur les actifs immobiliers, alors que le fonds de partage est sur la partie...
Sur le fonds lui-même, indépendamment des actifs sur lesquels il investit.
C'est ça.
C'est hyper intéressant, ça. Ça veut dire qu'en fait, vous qualifiez les actifs les uns après les autres,
oui.
Et il n'y a rien de standardisé. Du coup, chaque actif a une réalité différente, on est
d'accord. Chaque actif a une note. Après, on peut regarder au niveau du fonds ce que ça représente dans son ensemble, mais en fait, à chaque fois, c'est bien une grille ESG qui est appliquée à chaque actif.
Et dans l'acquisition d'un actif, ça compte aussi, donc du coup.
Oui.
Donc, question directe, vous répondez si vous voulez. Est-ce que vous, sur un score, vous dites, voilà, bah, cet actif-là, je ne le prends pas parce qu'il ne satisfait pas ma règle?
Oui, alors du coup, il y a une contrainte qui est donnée par le référentiel ISR pour avoir ce label-là. C'est en fait d'avoir une démarche d'amélioration ou déjà au-dessus d'une note seuil, là on parle de best in class, mais en tout cas, si jamais au moment de l'acquisition, on se rend compte que l'actif qu'on étudie est en dessous de la note seuil qu'on a définie, donc qui est une note...
C'est ça. Qu'est-ce que vous faites
de base,
alors
il faut qu'on ait la capacité d'avoir une marge de progression qui permette, à échéance 3 ans, de dépasser cette note seuil.
Alors que je comprenne
bien. L'atteindre. Oui.
Que je comprenne bien. Vous êtes sourcé sur un actif. Oui. Comme ça que ça fonctionne.
Oui.
Il y a un comité d'investissement qui doit respecter un certain nombre de normes et qui respecte notamment le cahier des charges du label ISR. On est d'accord là-dessus.
Oui.
et l'actif n'y satisfait pas. Vous vous dites, on va quand même l'acquérir et on va le rendre éligible au label ISR. C'est possible ça ou pas ?
En fait, c'est pas tout à fait, en termes de dénomination, c'est pas tout à fait comme ça qu'on.
Alors, dites-moi.
Qu'on dit. C'est-à-dire que pour satisfaire au label ISR, il faut prouver qu'on sera en mesure d'atteindre un niveau qu'on a défini. Donc, en fait, il faut, dès le comité même de pré-investissement, on remonte vraiment loin dans la chaîne de décision, qu'on ait déjà évalué d'où on part et qu'on ait réfléchi au CAPEX ou en tout cas aux actions, aux ressources à mettre en œuvre dans les trois ans.
Rénovation, amélioration, etc.
Ça pourrait.
Vous pourriez acheter un actif.
Oui.
Et le rendre éligible, enfin le rendre compatible.
Compatible, voilà.
À la note ISR, entre guillemets.
Note ISR.
Et donc, ça veut dire que des actifs en déshérence pourraient trouver une nouvelle jeunesse, entre guillemets, je caricature un peu, avec des foncières un peu offensives, créatives, il y en a beaucoup, hein, vous en faites partie, pour leur donner une belle vie. Parce que je trouve ça intéressant.
En fait, le but, c'est effectivement d'accélérer la transition écologique. Donc, au-delà des actifs neufs,
il n'y a plus d'étalement urbain, il n'y a quasiment plus d'étalement urbain, il n'y a plus de friches foncières exactement. Donc, la déconstruction et la reconstruction, la transformation est intéressante, ou la réhabilitation de certains. C'est une bonne nouvelle, ça, pour la santé, Thomas.
Pour la santé, mais de manière générale pour l'immobilier et pour
même si c'est un business, non mais faut le dire à nos auditeurs, même si c'est un très bon business, qu'il y a de très bons rapports là-dessus, que c'est clair que si les investisseurs y vont, c'est qu'il y a un marché. Mais en même temps, ça sert le collectif.
Alors, exactement. C'est-à-dire que d'un point de vue d'enjeu de société, il ne faut pas oublier que 85% du patrimoine de 2050, il est déjà construit et il existe aujourd'hui. Mmh. Et donc, du coup, quand je parlais de la notion de l'enjeu de l'ISR immobilier, c'est pas de se concentrer sur les actifs neufs qui vont passer de RT 2020 à RE 2020. C'est très bien, cette réglementation. Il faut qu'on soit exigeant sur les constructions neuves. Pour autant, ça ne va pas régler le problème. Il faut travailler sur ces 85% de patrimoine qui existent aujourd'hui. Et il faut même se concentrer là-dessus en tant qu'acteur de l'immobilier. Et donc, le label ISR va plutôt inciter à faire une démarche d'amélioration de ces impacts plutôt qu'une seule démarche de sélectivité.
Le label ISR, on peut le mettre en perspective aussi, par exemple, de ce que fait actuellement, alors je vais prendre le cas de la France, sur la rénovation énergétique, en retirant par exemple du parc privé locatif en 2025 et 2028 les étiquettes F et G, et bientôt E, d'ici 2034, c'est-à-dire 1 700 000 unités. Quand on sait qu'il y a déjà 5 millions de Français mal logés, faut juste se poser la question de savoir comment on va faire, puisqu'effectivement, avec le zéro artificialisation nette, ça devient compliqué de construire, justement. Alors moi, je voulais vous poser une question. Vous avez commencé les premières collectes sur la SCPI,
tout à fait.
Sur le fonds praticien. Vous l'appelez comme ça, le fonds praticien ?
C'est une SCPI, foncière des praticiens.
La foncière des praticiens. Oui, on peut, si nos auditeurs ils veulent acheter des parts de SCPI, c'est possible ?
Tout à fait.
C'est quoi le ticket de base ?
1000 euros, il me semble.
Ah, 1000 euros, c'est pas cher, c'est bien.
Ok, vous pouvez y aller.
Super. Et donc, on fait quoi ? On va sur le site de Magellan, c'est ça ?
Oui, il y a toute la documentation à la fois commerciale et technique en lien avec l'ISR qui est disponible sur le site.
Est-ce que vous avez eu des difficultés dans les premières collectes ?
Pas spécialement. Il faut savoir que, alors, Covid a eu beaucoup d'impact négatif, mais à minima sur ce fonds-là, aussi la chance de mettre en lumière le domaine de la santé, les métiers qui ont été bien portés pour tout ce qui est travailleurs clés pendant la crise sanitaire, et aussi souligner le fait qu'on manque d'infrastructures de santé publique sur le territoire. Donc c'est vraiment un axe qui avait déjà été identifié au moment de la création de ce fonds-là et qui a bien parler à nos distributeurs et aux investisseurs.
Le fonds a été lancé il y a combien de temps à peu près ?
L'agrément a été reçu en 2019 et lancé en 2020.
Ok, les premiers indicateurs sont plutôt très positifs, on va dire.
Oui, tout à fait.
D'accord. Thomas, qu'est-ce que vous dites à vos clients justement par rapport à ce que vient de nous dire notre amie Estelle sur les principales recommandations ? Donnez-nous les principales recommandations.
Ce qui est très important, c'est d'abord...
Il n'y a plus de choix à un moment donné, ils vont tous y aller.
Alors, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit que le label ISR, en fait, il y a plusieurs manières de le regarder, mais une des manières, c'est uniquement d'anticiper la réglementation à venir. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une tendance, c'est une vague de fond qui ne reviendra pas en arrière et qui va continuer.
Ah,
l'exemple, c'est la taxonomie, c'est le règlement qu'on appelle disclosure, le décret tertiaire, évidemment. N'oublions pas le décret sur les fluides frigorigènes que personne ne voit venir, mais ça y est, il existe, il est là. Enfin, et du coup, tout ça, ça va venir. Le fait d'avoir cette démarche ISR, ça va permettre d'avoir une vision globale de ces actifs spécifiques à chaque classe d'actifs, c'est-à-dire que là, sur Foncière des praticiens, ce qu'a pas précisé Estelle, c'est que c'est une grille adaptée à des actifs spécifiquement du secteur de la santé. Et donc, chaque fonds va avoir sa grille ESG qui va être bien adaptée et qui va permettre de comparer des actifs qui, entre eux, certes, sont hétérogènes, mais qui vont être encore plus différents d'un fonds qui va être un fonds de logement ou qui va être un fonds de bureau. Donc, cette grille, on va pouvoir l'adapter. On va l'adapter à la fois à ses objectifs, donc une démarche top-down. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est notre objectif? Sous-entendu, qu'est-ce qu'on veut pouvoir annoncer à nos investisseurs? Et sur quoi on veut convaincre nos investisseurs de nous confier l'argent?
Alors,
et la deuxième démarche, la deuxième démarche, c'est le bottom-up, en n'oubliant pas que la mesure de l'impact et la collecte des données, dès qu'on est à un niveau de patrimoine, c'est quelque chose de significatif.
Et notamment à travers les usagers, Chloé.
Et justement là-dessus, du coup, est-ce que vous avez eu aujourd'hui des difficultés sur cette collecte et les premiers, donc on a entendu que c'était tout récent, sur votre première collecte sur ce fonds-là, est-ce que vous avez eu des difficultés aujourd'hui au niveau opérationnel?
Aujourd'hui, on en est clairement à l'étape d'embarquer avec nous les gestionnaires techniques qui sont nos relais au quotidien le terrain et qui ne sont pas forcément familiers du label ISR. Donc déjà, il faut passer par une première étape d'explication de cette démarche qu'a adoptée le fonds. Et en fait, on a co-construit avec eux la grille ESG d'évaluation des actifs, ce qui nous permet d'être beaucoup plus fluide ensuite sur la collecte des données parce qu'ils comprennent dans quoi ça s'intègre et le rôle qu'ils ont à jouer. Après, tout ne repose pas sur eux. On a des assets et des properties en propre qui sont aussi impliqués dans la démarche. Mais clairement, ça ne se fera pas sans nos gestionnaires techniques, sans les locataires, où il faut qu'ils nous donnent accès aussi à certaines données et fassent de la remontée d'informations. Parce que, surtout dans le pilier S, on a en fait, donc social, sociétal, on a vraiment besoin qu'ils jouent le jeu de nous remonter leurs besoins.
Est-ce qu'ils le font?
Ils le font. Alors, la difficulté, par exemple, sur Frontières des praticiens, c'est qu'on s'adresse à des médecins. Et leur, en fait, leur but premier, c'est quand même de soigner des patients et pas forcément de répondre à des enquêtes de satisfaction.
Et puis surtout aussi de conserver certaines informations dont ils pourraient juger le fait de ne pas vouloir les donner.
Alors là-dessus, on est plutôt rassurant sur même RGPD, tout ça. Il n'y a pas de souci de confidentialité, mais c'est plus le temps dédié à répondre à un certain nombre de questions. Qui peut être limité. On a les mêmes difficultés d'ailleurs pour la mise en place du décret tertiaire, du fait qu'on va rentrer dans les parties privées de nos locataires. C'est là où notre foncière joue sur sa force de proximité avec les locataires pour aller sur place, faire les audits techniques et expliquer la démarche.
Vous mesurez bien sûr la performance énergétique de vos actifs? Bien évidemment.
C'est ça. Alors dans la grille.
Et vous êtes capable de leur donner le poids carbone de chaque actif?
Oui, ça, ce sont les deux indicateurs qui sont de toute façon obligatoires dans le référentiel et qui seront communs, pour le coup, à tous les fonds qui sont labellisés.
Ça plaît vachement aux investisseurs.
Ça, c'est effectivement une donnée
des jeunes investisseurs qui veulent flécher leur épargne en ayant une bonne rentabilité, mais dans un bon but. Je trouve ça plutôt sain. Hein. Est-ce que ça, chez Basimo, ou justement dans votre structure tech, tous ces éléments-là impactent ou orientent la façon dont vous développez vos outils
Oui, bien entendu. Bah, justement, c'est ce qu'on disait juste avant. Basimo, l'idée, c'était à la base de collecter toutes les données. Et bien entendu, aujourd'hui, la demande de nos clients, c'est de s'orienter vers toute la partie ESG, justement, label ISR. Et même plus loin que ça, de les aider à collecter les données, notamment des locataires. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites manuellement. Et l'idée, c'est d'automatiser un peu toutes les relances aux locataires et de créer un lien. Le numérique ne veut pas dire qu'on enlève le lien humain, mais d'éviter toutes les tâches un peu à faible valeur ajoutée et de se concentrer vraiment sur justement toute la relation entre les gestionnaires et les occupants sans avoir en permanence envoyé des mails de relance, etc.
Alors, j'ai dépassé de 4 minutes le temps qui m'était imparti. On en sera pratiquement à 25 minutes, mais comme quoi finalement le temps passe très vite avec Thomas, Estelle et notre amie Chloé, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et on voit bien aujourd'hui qu'en fait, ça dépasse dépasse très largement l'entre-soi, et que ces sujets-là, à condition qu'on ne prenne pas les gens que pour des imbéciles, il faut leur expliquer ce qu'on fait. Voilà, c'est le principe d'une concertation urbaine, par exemple, où on a vu, par exemple, l'impact de la concertation sur la réduction des recours, par exemple, ou sur le fait qu'on arrive à purger aujourd'hui des permis, tout simplement en considérant les riverains et en considérant les personnes. Et je trouve que tout ça, c'est bon signe, même si, effectivement, à la base, il y a des objectifs de business, il y a des objectifs de rentabilité, mais ce n'est pas un gros mot hein, de gagner de l'argent et de servir aussi l'intérêt collectif et l'intérêt de la planète, parce que comme dirait notre ami Emmanuel Macron, il n'y a pas de planète B hein, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est la fin de ce troisième podcast, ma chère Chloé. On va se retrouver bientôt.
Exactement, ouais, pour le prochain. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une mini-question pour Thomas, rapidement ?
Très rapidement.
C'est juste parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'harmonisation au niveau européen. Est-ce que, en quelques mots, on peut. Enfin, est-ce que tu sais déjà ce qui se passe ? Est-ce que tu as des informations à ce sujet ? Est-ce que tu peux nous.
Est-ce qu'on va avoir une surprise ou un réveil pénible ?
Les surprises vont arriver régulièrement et je ne les connais pas toutes. L'harmonisation aujourd'hui sur le règlement disclosure se veut être un élément de reporting qui dit vouloir harmoniser ces informations-là. Ça reste quand même une question assez difficile pour l'immobilier, à part sur la partie énergétique et gaz à effet de serre. Et encore là-dessus, il y a un gros sujet, puisqu'on sait à peu près maîtriser ce qu'on appelle le scope 2, mais le scope 3, ce qui est énorme et qui prend en compte à la fois les techniques de construction et la mobilité pour atteindre un bâtiment, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à mesurer, alors que ça représente une part énorme de l'empreinte carbone du bâtiment. Et là-dessus, il n'y a pas d'harmonisation encore. Donc, il y a une harmonisation sur les socles qu'on connaît, que sont la consommation énergétique et les gaz à effet de serre. Et il y a encore beaucoup de débats d'experts sur ce qu'il est possible de faire. Donc moi, j'ai envie de dire, d'abord au niveau de l'immobilier, mesurons ce qu'on sait mesurer, mais faites-le bien et faites-le de manière fiable, parce que là-dessus, vous allez être recherché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus pouvoir annoncer des chiffres comme ça en disant « c'est super, on améliore de 20%. » Non, il faut avoir vraiment la fiabilité des chiffres pour pouvoir le montrer, pour pouvoir montrer l'impact aux investisseurs.
Ou alors, on va avoir des consultants spécialisés, capables de nous répondre. Je connais une boîte qui s'appelle Étiquette. Qu'on peut consulter facilement et le trouver sur internet, on est d'accord là-dessus.
C'est www.etiquette.eu.
Voilà, .eu, et on mettra l'adresse du podcast de la Foncière Magellan exactement aussi. On va pas se priver de faire un peu de corps. En tout cas, c'est intéressant pour avoir ce type d'infos. Je vous conseille très vivement, les amis, de prendre l'information là où elle se trouve avec des experts. Non, c'est le métier. Voilà, comme c'est le métier de Basimo de faciliter la gestion des immeubles tertiaires, par exemple. On est d'accord là-dessus.
Exactement.
Basimo, voilà. J'allais dire Basimo, là, c'est eux qu'il vous faut. Non, mais franchement.
Parfait, t'as trouvé un nouveau slogan.
Non, mais franchement. Voilà, Basimo qu'on retrouve aussi sur Internet, cofondé par notre ami Chloé Ressac. On va se retrouver pour le quatrième numéro de Parlons Tertiaire et pourquoi pas au Rent, parce qu'on va se retrouver aussi au Rent, le Real Estate and New Technologies, sur lequel d'ailleurs on a un très gros dispositif, tous les rendez-vous, enfin tout est indiqué sur le podcast de l'émission. Partagez, likez, commentez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Merci Thomas Rochefort.
Merci beaucoup Simon.
Alors, directeur associé de Étiquette avec un T-H-I-K-E-T.
Oui,
voilà.
Oui.
Pas mal, pas mal. Et Estelle Ginefri, d'accord. Demoiselle Vite.
Voilà.
Félicitations. Voilà, bravo.
Merci.
Vive le Genévrier. Et vous êtes patronne de la RSE à la Foncière Magellan. Foncière Magellan, si on veut savoir plus, on va sur votre site internet et on peut aussi épargner. Et l'avantage, c'est que le ticket d'épargne, il n'est pas si élevé que ça, parce qu'il y a certaines SCPI, par exemple, dont le ticket de base, par exemple, est à 30 000 euros ou à 40 000 euros. Inutile de vous dire que ça s'adresse à une catégorie d'épargnants. L'avantage chez Magellan, c'est qu'on peut épargner à partir de 1 000 euros. C'est bien ça, hein, j'ai bien retenu ?
C'est ça.
Voilà. Foncière des praticiens, voilà, un nouveau fonds qu'on va scruter avec beaucoup de vigilance. Voilà, j'étais ravi de vous recevoir. Merci à toutes et à tous. Et surtout, prenez soin de vous.
Parlons tertiaire, au cœur des acteurs du territoire, une émission en partenariat avec Basimo, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.